mais là, tout de suite, je me suis dit, mon Dieu, si elle l'avait vu, elle m'aurait posé des questions. Comment j'aurais répondu à ces questions? Je me suis mise à me poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'élever ma fille à Montréal?
Puis quelle a été la réponse, puisque tu y penses depuis à peu près un an?
Ben là, écoute, je me suis mise à réfléchir beaucoup sur le sujet, comme j'ai écrit un article là-dessus, donc j'ai vraiment posé des questions à plein de monde. Oui, ma réponse va rester oui. J'aime la ville, j'aime Montréal. Donc, c'est sûr que ma fille va continuer à vivre ici. Elle n'a pas vraiment le choix. Il faut que ses parents soient heureux aussi pour qu'elle soit heureuse. Alors, c'est ça.
Mais tu t'expliques dans ton texte, Brigitte, que tu as grandi, toi, à Trois-Rivières. Et ça ressemblait, comme tu dis, là, ça ressemblait là, à une armoire IKEA bien rangée. Il n'y avait pas ces problèmes-là qu'on rencontre à Montréal. T'as-tu déjà été tenté de te dire, sais-tu quoi, chérie, on va prendre nos clics, nos claques, on va aller vivre à Laval, on va aller vivre à Longueuil ou ailleurs où il n'y a pas tous ces problèmes-là qui sont dans notre face comme à Montréal?
Oui, c'est sûr. Puis de plus en plus, je dirais, j'ai toujours été, j'avais très hâte de venir vivre à Montréal quand j'étais ado. J'adore la ville pour plein de raisons, plein d'avantages. Mais récemment, justement, j'ai grandi, je me pose toutes sortes de questions. T'sais, j'aime encore assez la ville, mais oui, des fois, je suis de plus en plus capable de m'imaginer déménager. Ce qui n'est pas le cas de mon conjoint. Par contre, lui, c'est sûr que c'est Montréal ou rien. Mais oui, à Trois-Rivières, c'était calme, à mon avis.
Étais-tu à Trois-Rivières centrale ou tu étais en banlieue de Trois-Rivières?
À Trois-Rivières centrale.
OK. Puis là, t'expliques qu'à 9 ans, tu marchais seule à pied pour aller à l'école.
Oui.
Est-ce que ta fille, à 9 ans, va marcher seule pour aller à l'école?
Écoute, il reste quelques années pour que je me décide là sur ça. Mais
ça te fait peur?
Pour l'instant, la réponse serait non, effectivement.
Pourquoi ça te fait peur?
Ben, premièrement, l'école primaire est juste à trois coins de rue, là, si on reste là. Puis c'est rien, là, mais on traverse la rue Sherbrooke. La rue Sherbrooke, moi-même, quand je la traverse, je suis un petit peu alerte, je regarde partout, puis je suis un peu stressée.
Fait que tu te dis, c'est pas vrai que ma fille à 9 ans, seule, va traverser la 138, parce que c'est comme ça.
Exact.
C'est aussi ça. Pourquoi? Parce que tu trouves que les automobilistes font pas attention?
Oui, entre autres. On en a des exemples tous les jours. Là. Il y a eu la petite Maria qui est décédée dans Ville-Marie. Ça peut être partout, c'est sûr. Mais à Montréal, il y a beaucoup de voitures. T'sais. Puis la rue Sherbrooke, c'est une grosse rue. Même s'il y a des brigadiers pour les aider à traverser, je pense que je vais l'accompagner quand même un bon bout de temps.
Je recule la cassette. Là. Je reviens au métro Joliette l'année passée. Là. Bon, vous êtes dans l'escalier roulant, ta fille a trip parce qu'elle trouve que c'est comme un manège. Vous arrivez proche de la sortie de l'édicule du métro et il y a ce gars-là en train de se piquer, en train de s'injecter de la drogue. C'est-tu bon ou mauvais pour une enfant de voir ça, d'être exposé à ça?
C'est une bonne question. Je la trouve un peu jeune pour se poser ces questions-là, mais ça va venir probablement beaucoup plus vite que moi quand j'étais à Trois-Rivières. Puis qu'elle se pose toutes ces questions-là qui viennent avec le fait de vivre en ville, je trouve que c'est bien. C'est une ouverture d'esprit qui va plus vite, là, à vitesse grand V. Puis effectivement, je pense qu'elle va sortir grandie de ça si on l'accompagne bien comme parent. C'est sûr qu'il faut savoir répondre à ces questions comme il faut.
Oui, mais comment on répond aux questions d'une enfant là, qui a 4 ans, qui va avoir 5 ans, sur ce phénomène-là qui est complexe? Puis comment tu trouves des mots d'enfant pour dire ça?
Bien là, j'ai parlé à Mélanie Milano, une psychoéducatrice en petite enfance, qui m'a justement suggéré de ne pas trop devancer les questions. C'est d'attendre que ça vienne de l'enfant, puis après de répondre dans ses mots le plus simple possible, clair et simple. Oui, il y a des enfants, des personnes qui n'ont pas la chance de vivre dans des maisons, on les appelle les itinérants. Après, elle va sûrement avoir d'autres questions. On essaie de répondre comme on peut, puis si on n'a pas la réponse, bien on le dit qu'on
Là où je trouvais, Brigitte, que ton texte était... ton texte est intéressant, mais un aspect intéressant, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé qu'habiter à Montréal, c'est du trouble. C'est un acte de foi. On est tous un par-dessus l'autre. On n'a pas de gazon. Un condo, un appartement, tu regardes ce que ça te coûte par mois. Une maison, tu déplaces le curseur 15 km, 30 km au nord, à l'est, à l'ouest, puis tu te dis, OK, voici ce que je pourrais avoir. Les bruits d'auto... L'homme, l'itinérance, tu sais, j'ai rien contre les itinérants, mais il y a des quartiers où c'est vraiment pas le fun, ils dorment dans les escaliers. C'est pas le cas quand t'es en banlieue. Toi, Bromont, ça te tente pas?
C'est un peu loin, Bromont, mais je commence à avoir des amis à Saint-Hilaire ou peut-être juste le Vieux-Longueuil. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, mais aussi la ville a plusieurs avantages. Là.
Ta famille qui est en Mauricie, oui. Qu'est-ce qu'ils disent d'élever un enfant à Montréal?
Ah ben là, il faudrait demander à ma mère.
Qu'est-ce qu'elle dit, ta mère?
Ben écoute, à chaque fois qu'ils viennent à Montréal, ma mère ou mon père, c'est sûr qu'ils ont un commentaire sur « la ville, hein, c'est donc bien... »
Qu'est-ce qu'ils disent?
Ben le trafic, ils n'aiment pas le trafic, mais c'est vrai, ouais. Ils ont raison. C'est compliqué le stationnement, des affaires, des clichés comme ça, là, ouais. qui sont vrais, mais qu'on s'habitue. Quand on est en ville, on s'habitue à tout ça. Là, ça devient la norme pour nous. Donc, ça va être la norme aussi pour ma fille quand elle va grandir.
Aurais-tu été différente si tu avais grandi à Montréal plutôt qu'à Trois-Rivières?
Ben peut-être. Ça, je le saurai jamais, mais j'ai une amie qui, elle, a fait le contraire, a grandi à Montréal, puis vient de déménager en banlieue. Puis elle a dit que ça a pris 30 secondes, puis qu'elle avait bu le Kool-Aid, puis qu'elle était bien heureuse, puis qu'elle sait pas comment elle l'a fait. Mais elle était bien heureuse, là. Elle l'a pas fucké de vivre à Montréal.
Moi, j'ai grandi à Laval, là. Je suis un enfant de la banlieue. J'ai été super heureux. Mon gars, il a 18 ans, il a l'air d'être heureux. Je dis qu'il a l'air parce que tu le sais, les ados,
oui,
là,
mais...
ça va venir, là, Geneviève, là. Brigitte, c'est difficile d'avoir une conversation avec eux. Mais moi, je suis toujours fasciné de penser qu'il y a des gens qui croient qu'on peut pas élever des enfants à Montréal pour des questions de qualité de vie.
C'est vrai. C'est vrai que c'est une croyance, puis c'est vrai que comme parent, je me suis moi-même posé la question, mais tout ce que j'ai aimé de la ville, ma fille va l'apprécier parce que je vais lui montrer. Chacun son choix, hein. C'est facile, là, mais c'est ça quand même. Il y a du bon en ville, il y a du bon en banlieue, il y a du bon en campagne, il y a du bon partout, puis on essaie de prendre le meilleur, puis le reste, ben on fait avec, puis on se débrouille comme on peut pour essayer de l'expliquer à nos enfants.
Intéressant. J'invite les gens à lire ton texte, Brigitte. C'est sur la plateforme Molo d'Urbania. Question complexe. Je pense que c'est polarisant. As-tu eu beaucoup de réponses là-dessus?
Quelques personnes qui se sentaient concernées. Là, des personnes justement qui n'ont pas grandi à Montréal, qui ont fait « Ah oui, moi aussi, je pense la même chose. » Ouais.
Merci d'être venu nous voir. C'était Brigitte Hébert-Carl.
Merci.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
Pourquoi on ne prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ne ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook. Puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir. Puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins.
Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient à échéance en 24-25.
Okay, ça
donc, l'été
bien.
Prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mais donc, le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il serait pas disponible avant la saison 25-26.
Okay.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça restera pas foiré à la maison. À TV.
C'est à ça que tu
pensais,
là.
Du lundi au vendredi dès midi.
Installez-vous au volant d'un VUS exceptionnel avec le Mazda CX-5, nommé meilleur choix de sa catégorie selon Protégez-vous en 2024. Pour une durée limitée, un boni Mazda pouvant aller jusqu'à 1 500 $ sur les CX-5 sélectionnés. Tous les détails chez Formule Mazda à Rimouski.
Vous écoutez CFIX 93.3 qui diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103.1.
Nouvelle nouvelles du 23 avril 2024. Le maire Guy Caron se fait rassurant concernant l'implantation de la multinationale Costco à Rimouski. L'entreprise et la ville doivent passer chez le notaire cette semaine afin de conclure la vente du terrain promis à Costco, situé à l'angle du prolongement du boulevard puis de la montée industrielle. La transaction est évaluée à un peu plus de 3,4 millions de dollars. Par ailleurs, la ville doit investir 4,9 millions de dollars pour des travaux d'élargissement de la montée industrielle et pour le prolongement du boulevard Turbuis. Quoi qu'il en soit, M. Caron s'est montré convaincu qu'il n'y aura pas de problème ce matin. Le porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Joël Arsenault, dépose un projet de loi pour contrer le gaspillage alimentaire et d'autres biens aujourd'hui. M. Arsenault rappelle qu'il y a un an, il a déposé un projet de loi similaire qui incluait aussi le droit à la réparation des biens. Le gouvernement a choisi de reprendre cette notion dans une loi sur l'obsolescence programmée, adoptée en octobre. Cependant, cette loi n'a pas ciblé le gaspillage, ce qui fait que le PQ revient à la charge. Celui-ci fait valoir que plusieurs juridictions dans le monde ont déjà agi pour contrer le gaspillage, autant alimentaire que pour d'autres biens. Le syndicat de l'enseignement de la région de la Métis dénonce les agissements du Centre de services scolaires des Monts et Marées envers son personnel enseignant en statut précaire. Le CSS a pris la décision de réaffecter du personnel enseignant sans lui demander son consentement ou avoir fait l'étude de ses capacités. Le syndicat a déposé un grief pour contester la décision de l'employeur de réaffecter du personnel enseignant dans des matières dont il ne détenait pas la capacité d'enseigner. En mars dernier, l'arbitre Alain Turcotte a rendu une décision favorable au syndicat. Malgré tout, le CSS a décidé de poursuivre sa démarche et pris la décision d'aller en appel. Et enfin, Investissement Québec accorde des aides financières de 1,5 million de dollars à deux entreprises de Rimouski, la ferblanterie de Rimouski et de Vaucéan, pour le projet d'agrandissement et de développement. La députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, en a fait l'annonce hier. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
Les faits, les vrais. CFIX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
J'avais 20 ans à peine, toi à peine un peu plus, et nos rêves promis au vieux chant des sirènes. Rose ne m'en veut pas, Rose ne m'en veut plus. Si j'ai quitté tes pas, si je nous ai perdus.
Qui est cette voix que je ne reconnais pas?
Ben, je peux vous dire que c'est un acteur qui est très connu pour avoir joué dans une centaine de films en France, comme des films comme Jean de Fleurette, Manon des Sources, Les Soudoués. Passe leur bac, oui. Les Soudoués en vacances.
Ça fait longtemps.
La fille sur le pont, le huitième jour. Dernièrement, La Belle Époque, le nouveau jouet. Donc, c'est l'acteur Daniel Auteuil qu'on entendait chanter parce que peu de gens savaient que Daniel Auteuil chantait. Il a indiqué deux albums. Il est ici au Québec pour chanter le répertoire de son deuxième album qui s'intitule « Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour ». C'est sorti en mars 2023.
Et c'est-tu bon?
Ben, écoute, ce que moi j'entends, j'ai été très surprise. C'est pas les plus grandes voix, souvent, les chanteurs français, surtout les comédiens qui chantent. C'est pas des voix très porteuses. Mais moi, j'ai été surprise, agréablement surprise. Je trouvais ça, j'avais peur que ça soit très mauvais. Puis finalement, tu sais, je trouve que ça ressemble à du Renaud, un peu. La façon dont, ce que moi j'ai entendu de la première pièce qu'on vient d'écouter.
On a Meeker qu'on a fait entrer dans ta chronique parce que c'est un expert en toutes choses musicales. on va écouter, avant de te demander ce que tu en penses, mon cher Meeker, on va écouter tantôt un autre extrait. Vas-y, Catherine.
Donc, la dernière fois que Daniel Auteuil est venu au Québec, c'était en 2002. C'était pour le tournage de La Veuve de Saint-Pierre avec Juliette Binoche. Pour lui, c'est un souvenir incroyable. Son fils est un fan de pêche. Il m'a dit qu'il aimerait ça revenir pour pouvoir pêcher avec son fils le saumon. Malheureusement, on est hors saison, fait qu'il est un peu malchanceux. Mais je l'ai rencontré très sympathique et je lui ai demandé comment c'est arrivé, cette histoire de vouloir chanter.
Dans la vie, comme vous, je pense que c'est un truc naturel de chanter. J'imagine que vous chantez aussi.
Moi, je vous dis que moi, c'est pas très naturel de chanter.
Moi, mes parents étaient artistes lyriques, ils faisaient de l'opéra, de l'opérette. Quand j'étais jeune, j'ai commencé comme ça avec eux. Quand je suis arrivé à Paris pour faire du théâtre, je me suis fait engager dans des comédies musicales. Donc ça faisait quand même quelque chose qui m'était assez familier. Ça faisait partie de mon métier de scène, de travail. Ce qui est nouveau, ça a été d'écrire de la musique et des textes et de faire des chansons. Ça, c'était nouveau.
Donc, sa mère est décédée. Elle lui a laissé un livre de poèmes de Jean-Paul Toulet. C'était écrit « À lire quand tu seras grand ». Et ces poèmes-là l'ont particulièrement touché, sauf qu'à toutes les fois qu'il faisait la narration des poèmes, il en était incapable de rendre l'émotion.
Et j'ai essayé de les dire, ces poèmes de Paul-Jean Toulet, j'arrivais pas à les dire. Et pour que mon fils se mette à la guitare, je m'étais mis à la guitare avec lui. Et en sortant quelques accords de guitare, je me suis aperçu que mes mélodies collaient bien sur ces textes. Je me suis retrouvé avec une vingtaine de chansons et j'ai décidé d'en faire un spectacle et puis après un disque. Et dans ce premier spectacle, j'avais écrit 2-3 chansons. Et Gaëtan Roussel qui m'a fait les...
De Louise Attaque.
De Louise Attaque, qui m'a fait les arrangements, m'a poussé à écrire mes textes, qu'il aimait. Donc Voilà, c'est quelque chose qui est venu naturellement après une vie de travail.
Les petites coupures, les petites griffures.